Lizzie présente Les détectives de Yorkshire. Rendez-vous avec le crime. De Julia Chapman. Lue par Odile Cohen. Pour Isabelle. En ta 90e année, une petite tranche des vallons, rien que pour toi. Prologue. Brouillard. Brume. Ou même bruine. Un nuage épais s'enroule comme une écharpe autour du réverbère de la gare, assourdit sa lueur. Sorti de nulle part, des rails jumeaux émergent de la purée de pois, tandis que le néant avale doucement le bout du quai. L'endroit se trouve trop loin de la mer pour que ce soit le har ou le fret, comme on appelle localement la brume marine apportée par le vent d'est. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, cela confère à l'heure sombre de ce début de matinée des relents de mort. Seul dans ce monde froid, ombreux, Richard Hargreaves tape des pieds. Bruit aussitôt étouffé par le linceul humide qui l'entoure. Il songe avec regret à la pauvreté du vocabulaire anglais susceptible de traduire ce phénomène météorologique, typique de la saison automnale dans les vallons du Yorkshire. Contrairement aux Inuits du Grand Nord, qui disposent de nombreux termes pour parler de la neige, les gens du cru n'ont que très peu de mots pour décrire ces journées sombres, humides, dégoulinantes. Du brouillard, donc. Trop épais pour n'être que de la brume. La visibilité est quasi nulle. Et les ténèbres ne donnent pas l'impression de vouloir se dissiper, quand bien même le soleil se lèverait au-dessus des collines et pénétrerait la masse qui plane au ras du sol. Richard Hargreaves resserre son écharpe sur son cou glacé, enfonce les mains dans les poches de son pardessus et sourit dans la grisaille. Le dernier jour de la semaine. 2 jours sans être obligé de se lever aux aurores pour attraper le train de 6h30. Et ce soir, il sera avec elle. Malgré le mauvais temps, tous les espoirs sont permis. Comme on peut se tromper parfois. Sur sa droite, le halo d'une lumière approchante suinte dans la couverture couleur cendre. Richard Hargreaves, pour la dernière fois de sa vie, rentre la tête dans ses épaules pour se protéger du froid, enfonce plus profondément les mains au fond de ses poches et s'avance vers le bord du quai. Quand le coup l'atteint dans le dos, il n'a rien pour se défendre, rien à quoi se retenir. Il tombe en avant. Chapitre 1. Comment peut-on aimer un endroit et en même temps le détester? Sans être persuadé qu'il existe une réponse à cette question, l'homme arrêta sa moto en haut de Gunnerstong Brow, coupa le contact, enleva son casque et contempla les toits d'ardoise qui pavaient le fond du vallon en contrebas. C'était le milieu de l'après-midi. La lumière rasante du soleil d'octobre embrasait la falaise de craie à laquelle la ville était adossée et se réverbérait sur des maisons et des rues où il n'avait pas remis les pieds une seule fois en plus de 14 ans. Bruncliff. Un amas compact de bâtiments, traversé par une rivière et une voie de chemin de fer, flanqué par les grandes cheminées de manufactures depuis longtemps désaffectées, et sereinement niché depuis des siècles sur le fond d'une vallée entourée de montagnes escarpées. Malgré l'isolement du lieu, ses habitants se prenaient pour le nombril du monde, arrogants, francs du collier, prompts à la critique, avare de compliments, et méfiant à l'égard des Ofcomdens, les étrangers. Comme lui, né et élevé là, mais jamais d'ici. Il promena ensuite son regard sur les collines vertes, les murailles de pierre caractéristiques qui montaient et descendaient les flancs de la vallée, et le terrain qui ondulait jusqu'à l'horizon. Le criaillement indigné d'un faisan perça le silence, suivi par le bêlement plaintif d'un mouton. Rien à voir avec Londres et la vie qu'il menait dans la capitale. Et c'était précisément la raison pour laquelle il était revenu. Se concentrant à nouveau sur la ville, il suivit des yeux la rivière qui cascadait depuis le nord et reconnut plus au sud la ferme Ellershaw, tache blanche sur fond de verdure, propriété des Metcalf. Protégée par les collines, mais bénéficiant néanmoins d'une vue dégagée, elle avait toujours été très bien entretenue. Évidemment, ce n'était pas un ivrogne qui l'habitait. Son regard se reporta machinalement sur le vallon et par-delà l'enchevêtrement d'habitations sur l'arrière de la ville, vers le val entre deux collines que le soleil avait désertées. Et le sourire en coin qui s'était attardé sur son visage meurtri s'assombrit. Chez lui, le seul foyer qu'il avait désormais. Sans lequel il ne serait pas là, en proie à ce mélange paradoxal d'aversion et de nostalgie. Hélène Bullock savait faire bien des choses. Elle pouvait nommer toutes les fleurs qui poussaient dans les bois de Hober, et tous les arbres aussi. Elle pouvait identifier un oiseau dès les premières notes de son chant. Elle pouvait aussi parler pendant des heures du quadrillage de blocs et de rigoles propres aux entablements calcaires qui constituaient le paysage local. Mais il y avait une chose qu'elle ne savait pas faire. Servir dans un restaurant. « Eh merde !» jura-t-elle, alors que les assiettes qu'elle remportait vers la cuisine se mettaient à brinque-baller, faisant tomber un couteau qui claqua sur les dalles de pierre. Couteau bientôt suivi par sa copine Fourchette.
Tu envisages de laisser tomber toute la pile, Hélène ?
Demanda suavement la plus grande des deux dames d'un certain âge, tout de noir vêtue, plantée devant le comptoir.
C'est juste que ma sœur a le cœur fragile, poursuivit-elle en désignant sa compagne du bout de sa canne. Et dans ce cas, mieux vaudrait la prévenir. « Pas vrai, Clarissa ?»«
Fiche-lui la paix, Edith !» répliqua gentiment la sœur en question. « Elle apprend, la pauvre !»«
Je fais ce que je peux !» se justifia Hélène en se baissant pour récupérer les couverts vagabonds, tandis que ses lunettes au verre maculé de traces de doigts glissaient sur son nez et ses tresses noires se balançaient devant ses joues.
« Ben, ça promet ?» Deux jours que tu es là et je commence déjà à perdre patience.
Les bras croisés sur la bedaine impressionnante qui tendait son tablier blanc, les épaules remplissant presque l'embrasure de la porte de la cuisine, Teach Harrison la foudroyait du regard.
Quand tu auras fini de faire mumus par terre, il y a deux assiettes qui attendent d'être servies. Et accélère un peu la cadence.
Il s'effaça pour la laisser passer en secouant la tête comme si son cas était désespéré. Quelques secondes plus tard, un énorme bruit de vaisselle cassée émana de la cuisine, suivi par un chapelet de jurons étouffés. Teach leva les yeux au ciel.
Un coup de bol qu'il n'y ait pas grand monde,
grommela-t-il en jetant un coup d'œil vers les seuls clients du restaurant, un couple de touristes assis à la table près de la vitre.
Ceux qui sont à l'enterrement ne savent pas ce qu'ils ratent. Lancer de couteau, bris d'assiette. Si ça continue, la petite Bullock va cracher le feu et elle s'en sortirait sûrement mieux qu'en faisant le service. Je vous jure, j'ai jamais vu une empotée pareille.